soldats du 5e de ligne, je suis votre empereur. Prêt à faire feu !
Tous les jours sur Europe 1, historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie.
Moi, Jeanne, je vous mènerai à l'hôtel dans la ville de Reims.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc,
bonjour,
David.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire. Bonjour Gavin Clemente Ruiz.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Oui, on va danser la samba. Et oui, il s'exile au Brésil, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par un écrivain français qui a choisi le Brésil comme terre d'exil, même si c'est au Paraguay qu'il voulait aller. Georges Bernanos a fui une Europe désenchantée juste avant la guerre, mais les soubresauts du monde ont fini par le rattraper. Puis je vous raconte un peintre parti au Brésil lui aussi, Jean-Baptiste Debray, parachuté de l'autre côté de l'Atlantique lors de l'une des plus importantes missions franco-brésiliennes de l'histoire. Il a servi un empereur en France, il en servira un autre là-bas aussi. Et vous allez voir que le Brésil lui doit son plus grand symbole national. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserait vers 17h30 environ le portrait de notre troisième personnage du jour, une star de cinéma qui part au Brésil, puis revient, puis repart, puis revient, puis repart, puis revient.
C'est ça, on peut faire ça longtemps. C'est Vincent Cassel, ou plutôt Vincent Cassellinho, pour les Brésiliens qui le connaissent un peu moins. Pourtant, ça fait presque 40 ans qu'il va là-bas. Il a même vécu 5 ans. Et ça, c'est pas du cinéma, vous verrez.
Alors, eux, voyez-vous, ils dansent la samba aussi, mais le plus souvent à Paris. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Eh bien, aujourd'hui, vous voyez tous autour de cette table qui était Marie-Louise, la seconde femme de Napoléon Ier.
Absolument.
Bon, elle était autrichienne. Elle avait une sœur qui s'appelait Léopoldine. Et celle-là, qui était sa sœur préférée, on lui a fait épouser Dom Pedro, prince héritier du Royaume-Uni, du Portugal et du Brésil. Donc, elle avait toujours vécu en Autriche. Allez, hop c'est
Brésil.
Parti pour le Brésil.
Changement
et à l'époque, c'est pas une promenade. Vous savez combien de temps ça mettait ?
6 mois.
Deux mois. Oh, 6 mois. Bonjour l'aventurier.
En ramant.
Bah, oui. Non, mais si on s'arrête en route.
C'est ça.
Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, selon la sienne. C'est David Castillo-Lopez. Pourquoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Des pianos publics.
À ce qu'on voit dans les gares. Alors, franchement, parfois, quand vous attendez un train, c'est pas les plus mauvais qui se mettent au piano.
Ouais,
je vous assure.
Ça dépend. Hein. Ouais. Quand c'est réussi, c'est très plaisant.
C'est très plaisant.
Ouais. Mais alors, quand c'est
Clémentine qui joue, c'est plaisant.
Non, elle joue très bien du piano.
Vous m'avez enregistré en douce, hein. C'est pas correct.
Ça, c'est les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Ça s'est passé dans le passé, aujourd'hui on remonte en 1922, on reste au Brésil avec vous, Gavin Clemente Ruiz, ce que vous nous emmenez à la découverte de l'un de ces symboles.
Oui, je vous raconte l'histoire de celui qui surplombe à bras ouverts la ville de Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur, posé au sommet du Corcovado, l'un des nombreux reliefs de la ville brésilienne. Et si Stéphane, il a effectivement été construit en 1922, il a fallu attendre quelques années pour son inauguration, vous verrez pourquoi.
Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40, mais avant cela, dans moins de 45 minutes, je mettrai en jeu mon titre d'amateur éclairé d'histoire et de grand gagnant de ce quiz.
Calmez-vous. Des questions sur l'histoire, des réponses plus ou moins hasardeuses. Bah, c'est le principe de Burn to be Alive, en effet, à la fin.
Non, le principe, c'est des questions historiques pour Stéphane et moi, des questions d'après 1979.
Ah, elle se plaint.
Voilà, sur l'actualité.
Je vous rassure,
on a compris.
La râleuse s'échauffe déjà. À la fin,
la râleuse n'a jamais besoin de s'échauffer.
Oui, bien sûr.
Moi, je ferais bien... une sorte d'école des fans de l'histoire, parce que comme ça, à la fin, tout le monde peut gagner. Vous savez, on tend des pancartes avec des numéros 10. Ils étaient tous gentils, les gamins.
Oui, exactement. Oui, mais c'est une super idée, ça. Mais
moi,
non.
J'adorais
cette
émission.
Mais non, on fera pas ça.
Bon, vous êtes vraiment intraitable, Jean-Luc. Hein, parfaitement intraitable. Bon, écoutez, pour l'heure, restez bien avec nous sur Europe 1. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il était l'un des écrivains les plus brillants du XXe siècle. Il reste comme l'exemple même de l'homme assez courageux pour accepter de penser contre lui-même et a écrit quelques-uns des plus beaux romans de la langue française avant de s'exiler au Brésil avant la Seconde Guerre mondiale. Je vous raconte maintenant l'homme qui a écrit « Sous le soleil de Satan », Georges Bernanos. Nous sommes en 1934 à Palma de Majorque. C'est sur cette île espagnole de la Méditerranée que Georges Bernanos s'est installé avec sa famille. Mais à 46 ans, la vie en Europe commence à lui être insupportable. Célèbre depuis l'apparition de son roman « Sous le soleil de Satan » en 1926, détesté par beaucoup depuis la publication de « La grande peur des bien-pensants » en 1931, l'écrivain, qui se sentait déjà à l'étroit dans son pays natal, la France, est écœuré par les lâchetés des hommes de son temps. Alors que déjà la guerre menace le vieux continent, Bernanos se sent comme étranglé, gêné dans cette liberté d'agir et de penser qu'il place au-dessus de tout. L'exil devient pour lui une nécessité, ne serait-ce que pour retrouver le chemin du roman, lui qui n'écrit plus que des pamphlets. Il écrit alors à une amie.
« Je suis cette fois absolument décidé à foutre le camp. Ou, évidemment, au Paraguay. Le climat y est sain, la chaleur modérée, la banane, l'orange, la mangue et la canne à sucre sont à la disposition des amateurs. »
4 ans plus tard, le 4 août 1938, c'est pourtant à Rio de Janeiro, au Brésil, qu'il débarque avec sa femme et ses 6 enfants. Rio n'est alors qu'une étape sur la route du romancier, toujours convaincu que le Paraguay est ce pays du renouveau qu'il appelle de ses vœux, cette terre où il pourra retrouver la simplicité à laquelle il aspire, celle d'un chrétien en quête de calme et de grâce. Quelques mois après, c'est toujours au Brésil, sur les terres rougeâtres du vaste état du Minas Gerais, que Bernanos pose ses valises dans une petite maison blanche construite à flanc de colline, en un lieu baptisé la Cruz de las Almas, la Croix des âmes. Dans ses bagages, il n'a emporté que l'essentiel, une copie du roman qu'il est en train d'écrire, « La paroisse morte », qui paraîtra sous le titre de « Monsieur Wynne ». Là-bas, sous le soleil brésilien, loin d'une Europe qui s'apprête à s'embraser, Bernanos ne renonce à rien, ni à la colère, ni à cette puissance de frappe et à cette écriture fiévreuse et pénétrée qui fait son style, ni à sa quête de courage, de droiture et de vérité. Quitter la France fut sans doute un arrachement pour Georges Bernanos, élevé depuis son plus jeune âge dans l'amour du pays natal. Dès sa naissance en 1888, le petit Georges grandit dans une famille où on croit en Dieu et au roi, au milieu d'un entourage qui n'aime guère la République. Chez lui, on lit La Libre Parole, le journal antisémite fondé par Édouard Drumont, et la foi chrétienne est une évidence. Et les chiens ne font pas des chats. Très jeune, Bernanos rejoint le camp de l'Action française et des camelots du roi, dans ce camp monarchiste qui admire l'intellectuel nationaliste et antisémite Charles Maurras. Étudiant à Paris, il fait le coup de poing sans état d'âme, ce qui lui vaut quelques jours de prison, qu'il reçoit comme une médaille. À 20 ans, depuis Rouen, Bernanos ferraille déjà à longueur de chronique dans les colonnes de l'avant-garde une feuille monarchiste qui tire à boulets rouges sur la gauche, Clémenceau et la République, cette gueuse que Bernanos ne peut pas voir en peinture. La guerre de 1914 est un premier choc. Réformé d'abord, Bernanos s'engage comme volontaire dans un conflit dont il sort médaillé pour son courage et blessé à plusieurs reprises. Mais déjà l'ancien combattant porte une œuvre. La guerre a transformé cet homme bien trop grand pour le petit poste d'agent d'assurance qu'il a pris du côté de Bar-le-Duc pour faire vivre sa famille. Le mystère de la foi fascine ce catholique fervent, comme la question du bien, du mal et de la grâce. Il lui faudra des années, mais son coup d'essai est un coup de maître. En 1926, lorsqu'il publie « Sous le soleil de Satan », Bernanos s'impose aussitôt sur la scène littéraire, fasciné par cet homme obsédé par la part de honte, de boue et de médiocrité qui baigne en chacun de nous. Ce lot de bêtises et de haine qui grouille dans ce qu'il appelle les eaux dormantes et pourries de l'âme. Bernanos est sur le devant de la scène, il ne la quittera plus. Les livres et les succès d'édition s'enchaînent. L'imposture en 1927, La joie en 1929, Un crime en 1935, Journal d'un curé de campagne en 1936. 1936 justement, c'est le début de la guerre d'Espagne. C'est aussi celui d'une fracture définitive entre Bernanos et son camp politique. Franco séduit d'abord cet anti-républicain viscéral. Il écrit...
Pour une fois que je vois des militaires assez culottés pour faire une révolution, ce serait difficile de les lâcher.
Mais si Bernanos a une qualité, c'est de savoir penser contre lui-même et contre la cécité volontaire de son camp. L'écrivain, lui, refuse de ne pas voir ce qui se passe en Espagne.
les massacres, les incendies, les exactions, les viols et la complicité de l'Église coupable d'un crime moral qui heurte profondément ce chrétien sincère. À droite, il est l'un des rares à se révolter contre les crimes du franquisme, le seul à refuser de voir des curés absoudre les soldats, les souliers dans le sang, pour reprendre ses mots. Georges Bernanos en tire un livre remarqué, « Les grands cimetières sous la lune », directement adressé à ses amis politiques qu'il prévient.
« Il vous en coûte à lire, il m'en coûte de l'écrire. Il m'en a plus encore coûté de voir. Il est dur de regarder s'avilir ce qu'on est né pour aimer. »
Avec Maurras, la rupture est consacrée. Partout dans la presse de droite, on s'enflamme contre Bernanos, traité de traître et de fou dans le meilleur des cas. Le camp républicain applaudit, mal lui en prend. Bernanos a gardé quelques flèches pour ceux qui refusent de voir le danger du nazisme et ceux qui seront assez lâches pour signer des accords de Munich avec Hitler. Alors, écœurés, désabusés par la faiblesse de cette Europe qui ne sait pas se dresser contre la vague de ténèbres et qu'il voit s'annoncer avec une effrayante lucidité, Bernanos choisit l'exil à 50 ans, mais les soubresauts du monde vont le rattraper. Même si Bernanos parvient à renouer avec le roman en bouclant le manuscrit de M. Wynne à la Croix des âmes, lui, qui n'a pas écrit une ligne de fiction depuis 3 ans, revient sans cesse à ce vieux continent qui tombe sous la botte nazie. Opposant de la première heure au maréchal Pétain qu'il qualifie de vieux traître, Bernanos préfère la France libre à cette révolution nationale qu'on veut inventer à Vichy et qu'il exécute d'une formule lapidaire, la révolution des ratés. Georges Bernanos choisit le général de Gaulle et il le fait savoir à longueur d'articles et de chroniques, réunis et publiés pour la première fois au Brésil dans un recueil « Le chemin de la croix des âmes », alors que de Gaulle lui répond régulièrement « touché par le soutien d'un homme dont le courage n'est plus à prouver ». La littérature rattrape pourtant Bernanos de façon parfois cruelle. En février 1942, un autre grand brûlé de l'existence frappe à la porte du refuge brésilien de Bernanos. L'écrivain Stefan Zweig, parti depuis longtemps de son Autriche natale, tombé dans le piège nazi. Entre l'écrivain juif et le romancier catholique, la rencontre aurait pu être étrange. Elle est surtout calme, mélancolique et presque funèbre. Désespéré et affaibli, Stefan Zweig ne fait pas mystère de ses intentions d'en finir et se tue 4 jours plus tard, un suicide qui marque Bernanos, ému par le sort d'un homme dont il ne peut, comme chrétien, que condamner le geste. La fin de la guerre marque le retour en France de Bernanos, dans une France où on salue l'engagement de ceux qui ont vu clair avant les autres, l'écrivain pourrait se mettre en avant. À nouveau écœuré par une épuration qu'il juge largement hypocrite dans la foulée de la Libération, il choisit de faire exactement l'inverse et refuse l'Académie française avec sa verdeur habituelle.
« Quand je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'Académie. »
Il n'en aura pas le temps. Rattrapé par un cancer du foie, Georges Bernanos s'éteint à Neuilly en 1948, bien loin de cette parenthèse brésilienne que personne n'a oubliée là-bas. En France non plus d'ailleurs. En 1985, lorsque François Mitterrand s'est rendu au Brésil pour une visite d'État, le président n'a demandé à faire qu'un seul détour à la Croix des âmes, ce refuge où Bernanos avait peut-être enfin réussi à être heureux.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Georges Bernanos avec Clémentine Portier-Kaldenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un écrivain qui connaît parfaitement bien l'œuvre de Bernanos. Bonjour Sébastien Napac.
Bonjour.
Sébastien Napac, vous êtes ce qu'on appelle un Bernanosien. Vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés à cet écrivain et à son œuvre, dont Sous le soleil de l'exil, Georges Bernanos au Brésil, qui reparaît d'ailleurs dans la collection Tempus des éditions Perrin. Avant d'en parler, pourriez-vous en quelques mots définir l'œuvre de Bernanos à nos auditeurs qui ne la connaîtrait pas, forcément.
En fait, il y a 2 œuvres dans cette œuvre. Il y a une œuvre de combat journalistique et il y a une œuvre romanesque. Cette œuvre romanesque a une survie grâce au cinéma, puisque vous vous souvenez que Sous le soleil de Satan avait eu la Palme d'Or tournée par Piala, et auparavant, il y avait eu Bresson qui avait tourné le journal La Curée de Campagne et Mouchette. Donc ça, c'est son œuvre d'imagination. Et après, il a une œuvre de combat journalistique que vous avez évoquée. Vous avez parlé du chemin de la Croix des âmes. La France contre les robots, qui est son livre contre la technique. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est qu'il a des lecteurs d'horizons très variés. C'est-à-dire qu'il a des lecteurs qui sont admirateurs de son œuvre de romancier catholique, qui s'intéresse principalement à l'angoisse de vivre et de mourir. Et après, il y a cette œuvre de combat journalistique dont les plus belles flammes, pour moi, sont brésiliennes, avec toute une série de livres qu'il écrit, comme vous l'avez rappelé, entre 1938 et 1945, contre le fascisme, contre le totalitarisme, contre la Révolution nationale de Pétain, en soutien d'une France éternelle. Là, j'apporterai un petit bémol à ce que vous avez dit.
Sur le franquisme, j'ai vu que vous réagissiez.
Non, c'est pas sur le franquisme, c'est quand même sur la République. Je pense que Bernanos finit par comprendre au Brésil, et grâce au Brésil, que la République, une et indivisible, c'est notre royaume de France, comme disait Charles Péguy.
Mais est-ce que, du coup, on ne peut pas dire de lui que c'est d'une certaine manière un auteur inclassable? Parce que j'allais le dire, moi je sais que j'ai un grand-père maternel qui était libre penseur, qui était un homme de gauche, et Bernanos était son auteur préféré. Alors que vous, ses fans nous raconter son itinéraire de maurrassien, plutôt d'homme de droite profondément croyant. Donc, dans ma bibliothèque, où est-ce que je place Bernanos? Où se place-t-il dans l'histoire littéraire française?
Vous avez raison, nulle part. C'est pour ça qu'il est vraiment grand. Vous avez tout à fait raison. Les anarchistes l'aiment beaucoup en général. Oui. C'était peut-être probablement le cas de votre grand-père. Il est absolument inclassable parce qu'il est vraiment nourri par sa foi catholique et une foi de prophète, en fait. Il voit des choses. Il comprend ce que Stéphane a rappelé immédiatement, que la Révolution nationale, c'est une imposture. Mauriac le comprend, mais avec un peu de retard. C'est pour ça que j'ai tiqué quand vous avez dit c'est le seul homme de droite. Je pense que il y a d'autres exemples, mais les gens qui étaient lucides voyaient que cette guerre d'Espagne, c'est vraiment le moment clé. Et Bernanos le comprend dans ce fascinant livre qui s'appelle Les grands cimetières sous la lune. Et là, vous avez raison. Qui aime d'abord Les grands cimetières sous la lune? C'est Aragon, c'est Paul Nizan, ce sont des gens de gauche.
Sébastien, il y a plusieurs années, vous êtes allé au Brésil sur les traces de Georges Bernanos. Pourquoi êtes-vous parti sur ces traces? Quel était l'objet de votre quête?
Évidemment, quand j'ai lu Bernanos la première fois, ça me fascinait, cet exil brésilien dont vous avez rappelé la dimension romantique, enfantine d'ailleurs, hein, de faire une ferme, il rêvait du Paraguay. Et puis finalement, il s'est retrouvé au Brésil parce que le Brésil de cette époque était très francophile, je dirais même français. La France et le Brésil étaient deux pays frères. Un point qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir fait ce travail il y a 20 ans, où j'ai rencontré des gens qui avaient connu Bernanos. J'ai même rencontré une personne qui a emmené Stéphane Zweig chez Bernanos à la Croix des Âmes, dont vous avez parlé, dans sa ferme à Barbacena, sur les hauts plateaux du Minas Gerais.
Il peut aller toujours voir sa maison, j'en profite pour le dire, à Petropolis, la maison où Stéphane Zweig...
Et la maison de Bernanos aussi d'ailleurs. Oui. Alors, la maison de Stéphane Zweig à Petropolis, c'est un musée, donc toute personne qui va au Brésil, il faut 2 heures depuis Rio pour aller voir la maison de Stéphane Zweig. La maison de Bernanos, c'est un peu plus loin. À Barbacena, il faut plutôt 5 heures, mais François Mitterrand, comme vous l'avez rappelé, n'a pas manqué lors de son voyage d'État en 1985.
Mais Sébastien, est-ce qu'on se souvient encore du passage de Bernanos au Brésil? Sous le soleil du Brésil, donc, je rappelais la première édition, je crois que c'était il y a 20 ans, vous racontiez justement qu'un jeune réceptionniste savait tout à fait qui il était.
Alors, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que après la guerre, la France et le Brésil, qui étaient donc comme deux pays frères, comme l'a dit Claude Lévi-Strauss, quand il écrit Tristre Tropique, lui, il est au Brésil entre 1935 et 1938. Le Brésil s'éloigne de la France, hein, se rapproche des États-Unis. Le français était la première langue vivante enseignée au Brésil. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de minorité active qui essaye de se réapproprier, comme dans tous les pays, d'ailleurs, l'histoire profonde du Brésil. Et cette histoire, elle est en partie française. Savez-vous, Stéphane, que le drapeau du Brésil a été dessiné par un peintre français
dont nous allons parler,
Jean-Baptiste Debré.
Dont nous allons parler dans un instant, justement, tout à l'heure. Et vous aviez une question, Clémentine.
Moi, il y a une question. Il y a un paradoxe, me semble-t-il. On a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour Bernanos, parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi dire je lis son œuvre. Alors comment cette époque jubile-t-elle de lire un homme aussi nuancé dans une époque qui la supporte si mal?
Bien, je crois que vous l'avez dit, Stéphane, tout à l'heure, c'est qu'il pense contre lui-même, cette force incroyable. Vous avez tout à fait raison, il ne faut pas du tout le nier, qu'il vient d'une extrême droite antisémite et il s'arrache à ce préjugé antisémite. En 1937, Céline, dont je continue de m'étonner qu'il ait autant de succès sans que ça angoisse personne, moi ça m'angoisse profondément, mais quand il publie Bagatelle pour un massacre, cet atroce pamphlet antisémite, Bernanos écrit « Céline, cette fois-ci, s'est trompée d'urinoir ». Donc, il s'arrache à ce préjugé, à cette tradition antisémite, qui est plus une tradition d'ailleurs, hein, vous l'avez un peu expliqué Stéphane, c'est-à-dire que c'est un héritage familial, on vous a toujours transmis les clichés antisémites dans votre famille, c'est un héritage familial stupide, dont il s'arrache. dont il s'arrache, parce que il y a des textes sionistes que je rappelle dans mon livre à la fin de sa vie. Donc ça, c'est sur la question antisémite. La question de la République, je crois que je l'ai éclairée. Mmh. Quand il arrive au Brésil, les gens au Brésil, pour ceux qui connaissent ce pays, ils admirent Victor Hugo, Napoléon Bonaparte. Alors la seule personne que Bernanos n'a jamais admirée, c'est Napoléon Bonaparte, à cause des tueries. La tuerie de masse, pour lui, c'est vraiment la chose démocratique par excellence, horrible. Et en tant que royaliste, il ne supporte pas. Lui, ce qu'il l'admire, c'est la guerre en Antenne ou le dimanche de Bouvines, où vous faites tomber deux chevaliers.
Enfin, les guerres de Louis XIV ont été assez meurtrières aussi.
Mais Bernanos n'aime pas Louis XIV.
Ah, voilà.
Non, c'est Maurras qui admire Louis XIV. Mmh. Bernanos, ce qu'il admire, c'est Saint-Louis sous son chêne. Vous savez, ça. Son modèle, c'est la monarchie administrative et centralisée, c'est certainement pas ce que Bernanos admire. Bernanos, ce qu'il aime, c'est évidemment, comme vous le savez,
Jeanne d'Arc. Une monarchie nomade.
Jeanne d'Arc n'a jamais tué personne.
Oui.
Elle a fait la guerre sans jamais tuer personne. Mmh. Elle portait son drapeau, elle n'avait pas d'épée. C'est ça qu'admire Bernanos, c'est quelqu'un qui fait la guerre sans tuer personne.
Il a eu un mot, je terminerai là-dessus, que j'adore et que j'adore citer, les ratés ne vous rateront pas.
Oui, ça malheureusement, il faut s'en souvenir, mais malheureusement, on a trop souvent l'occasion de s'en souvenir.
Oui. En tout cas, merci Sébastien Lapin de nous avoir raconté l'écrivain Georges Bernanos. Votre livre « Sous le soleil de l'exil, Georges Bernanos au Brésil » vient de reparaître en poche dans la collection Tempus des éditions Perrin. C'est l'occasion de retrouver Bernanos, de lire son œuvre et puis de replonger dans cette période de son exil au Brésil. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, et puis là j'avoue, j'ai un peu triché.
Ah bon ?
J'ai un peu triché parce que j'ai mis un indice rien que pour vous, Stéphane. Je sais que ça va vous faire plaisir.
Mireille Mathieu, Acropolis, adieu.
Oui, on va parler
de Grèce.
De Grèce.
Bon, d'accord.
Oh là là, elle commence à râler là déjà. Dites-moi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, on va s'arranger.
Bon, il faut que je vous fasse passer un petit mémento. Non, mais la Grèce, il est super avantagé.
Les dieux ou les...
Oui. Si c'est une question sur Nana Mouskouri. Sur Platon, ce sera plutôt pour moi, sur Nana Mouskouri. Oui. Alors ne faites pas l'inverse, s'il vous plaît.
J'aime bien écoutez, la philosophie de Nana Mouskouri.
Je vais spoiler un peu, on va parler d'huile d'olive.
D'huile d'olive. Le régime crétois, tant que vous y êtes.
Vous allez voir.
Mais avant cet affrontement avec Clémentine, laissons-lui la parole. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, on reste au Brésil avec vous, puisque, et avec celle surtout qui a quitté son Autriche natale pour rejoindre Rio de Janeiro au bout de 2 mois, donc, en épousant l'empereur du Brésil, Pedro I. Pierre Ier, Léopoldine d'Autriche, devenue impératrice du Brésil.
Alors oui, c'est Léopoldine, une jeune fille douce, timide, pleine de charme, pleine de talent. Elle parlait plusieurs langues, et ça lui sera très utile, cette capacité à apprendre les langues en allant au Brésil. Elle est passionnée par les sciences naturelles. Et alors, bon, elle a toujours passé sa vie confortablement à la cour d'Autriche. Et puis là, on lui dit, écoute ma cocotte, maintenant tu vas épouser Dom Pedro, prince héritier du Royaume-Uni, du Portugal et du Brésil. Donc, mariage par procuration. Elle ne voit de lui qu'un portrait. Et elle doit faire ensuite ses adieux à l'Autriche pour toujours et partir pour le Brésil. Pourquoi le Brésil et non pas le Portugal? Parce qu'elle épouse bien l'héritier de Dom João. Alors, comment dire
João Seix.
João Seix. Bon, ok, je vais avoir du mal, là. Il est roi du Portugal et du Brésil. C'est le père de son futur mari, si vous voulez. Mais en fait, il a dû se réfugier au Brésil, pourquoi? Parce que c'est les troupes napoléoniennes qui ont envahi le Portugal avec Junot. Donc le roi a dû partir et il est parti au Brésil.
Mais après, il rentre. Évidemment.
Après, il va rentrer. En tout cas, elle fait ses 2 mois de bateau et son bateau entre dans la rade de Rio le 5 novembre 1817. Elle est fascinée par le paysage de son futur royaume, qui ne le serait pas en découvrant le Brésil. C'est d'une beauté, c'est au-delà de tout ce qu'elle a pu lire pendant sa traversée. Puis surtout, elle est très très bien reçue. La famille royale au grand complet vient lui souhaiter la bienvenue. Et surtout, enfin, elle voit quand même à quoi ressemble son mari. mari. Grand, mince, le visage bronzé.
Il était pas mal.
Alors, il était un peu marqué par la petite vérole, mais à l'époque, c'était assez court.
Tout le monde.
Oui. Non, mais c'est sûr. Vrai, on n'est pas déstabilisé par ça. Par la plupart des gens, on a la peau grêlée, hélas. Bon, enfin, lui, il n'est pas très ébloui par Léopoldine. Bon, elle a de jolis yeux bleus, mais enfin, elle a les traits un petit peu lourds. Et puis surtout, à l'époque, il avait des amours avec une petite danseuse française dont il était très, très entiché. Oui, c'est ça.
Aussi.
Il aimait bien les femmes. Hein. Alors là, son père a dû envoyer la jolie française à Récif, là, parce que la fiancée arrive, c'est pas tout ça. Enfin, l'heure n'est pas à la gaudriole. Et dès le lendemain, Léopoldine, vêtue d'une somptueuse robe blanche brodée d'argent et d'or, prend place sur une galère à 100 rames qui accoste devant l'arsenal de la marine où un arc de triomphe a été construit pour l'accueillir. Tous les navires ancrés dans le port de Rio, toutes les batteries des forts tirent des salves en son honneur et les habitants acclament leur future souveraine. À la nuit tombante, les jeunes époux gagnent le château de São Cristóvão.
Il n'y a pas de longtemps.
Et c'est un beau château construit sur un plateau face à la mer. Et désormais, c'est là que Léopoldine va habiter. Son beau-père a fait les choses vraiment bien parce qu'il a commandé en France des meubles de chez Jacob. Donc, elle est meublée vraiment dans le style tout à fait impérial. Il a fait placer un buste de l'empereur d'Autriche, donc son papa, dans sa chambre. C'est quand même gentil comme attention. Et puis, il lui a fait remettre aussi un album qui contient les portraits de tous les membres de la famille qu'elle vient de quitter en Autriche. Donc, vraiment, c'est quand même un beau-père très attentionné.
Pour qu'elle ne soit pas trop nostalgique.
Ben voilà, exactement. Alors, le problème, c'est que si vous voulez, il vaut mieux que la belle famille soit gentille parce que le mari est quand même très, très, très difficile. Il est extrêmement colérique. Il a de temps en temps des attaques d'épilepsie. Bon, côté prince charmant, là, Léopoldine, elle déchante un petit peu. Mais enfin, il lui fait quand même assez confiance pour, lorsqu'il s'absente, lui laisser la régence. Donc, il sait qu'il peut s'appuyer sur elle. Et c'est important parce qu'à l'époque, il y a une forte agitation politique, non seulement au Portugal, ce qui fait que... Alors, elle est dit Don João VI.
Don João VI.
Voilà. Bon, Don João VI.
Don João VI.
Non, mais
Jean
j'y arrive
six.
Pas. D'accord.
Jean, quoi.
Jean. Bon, alors, Jean VI. Jean VI. Il est obligé de retourner.
C'est à traverser de Paris maintenant.
Il est obligé de retourner au Portugal parce qu'il y a de l'agitation politique. Et puis, c'est pareil au Brésil. Une junte réclame la création d'un État indépendant du Brésil et d'une monarchie constitutionnelle. Et Léopoldine, elle, là, elle va commencer quand même à avoir une petite influence. Elle écrit à son mari : le fruit est mûr. Cueillez-le, autrement il pourrira. Donc elle le pousse à dire, allez, vous envoyez bouler votre papa et puis vous proclamez l'indépendance du Brésil. Et c'est ce que va faire Dom Pedro. Il proclame l'indépendance du Brésil le 1er décembre 1822. Il se fait couronner empereur du Brésil avec ses côtés Léopoldine, qui est présente à toutes les cérémonies qui marquent la naissance du nouvel État, bénédiction du nouveau drapeau vert et or, ouverture des cortes du Brésil, les chambres législatives. Donc, vous voyez, sur le plan politique, il y a une très grande entente entre dans ce ménage, mais dans l'alcôve, c'est pas exactement la même chose, parce que oui, Dom Pedro est un sacré coureur, donc il y a eu la petite danseuse française Noémie Thierry, mais il lui a fait un enfant, puis alors maintenant, c'en est une nouvelle qui s'appelle Domitilla de Castro, qui lui donne plusieurs enfants, il la comble d'honneur, il lui donne le titre de marquise de Santos, il la fait nommer dame d'honneur de Léopoldine. Alors là, la pilule est quand même amère, parce que autrement dit, vous avez compris, il donne sa propre maîtresse à qui il a fait différents gosses comme dame d'honneur à sa femme. Bon, c'est difficile à avaler. Sa première fille qui s'appelle Bella, qu'il a avec cette maîtresse, il la titre duchesse de Goyas et elle est officiellement présentée à Léopoldine qui doit trouver que tout ça est très normal. Donc, de ce point de vue-là, disons que l'histoire de couple est plutôt agitée, mais en même temps, même jusque dans ces derniers moments, jusqu'à sa mort, jamais Léopoldine ne cessera de l'appeler mon Pedro adoré, alors qu'il l'avait quand même copieusement trompé. Hein. Mais manque de peau pour la maîtresse, à la mort de Léopoldine, il ne va pas l'épouser, il va épouser une certaine Amélie de Leuchtenberg. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que qui est Amélie de Leuchtenberg? Oui, c'est ça, par cœur, bientôt, bien sûr, à ma gauche. Eh bien, c'est une petite fille de Joséphine de Beauharnais. C'est donc une petite fille de Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français, qui a succédé sur le trône du Brésil à la sœur de Marie-Louise, autre impératrice des Français. Extraordinaire ironie du sort. Mais enfin, c'est bien. Le souvenir de l'aimable Léopoldine qui plane encore aujourd'hui sur le palais de São Cristóvão, car les Brésiliens voient en elle la princesse européenne qui sut épouser la cause de l'indépendance du Brésil.
Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Bern to be alive.
Fermez les yeux Stéphane, moi je contrôle tout. Mes questions sont prêtes, vos réponses sortiront quand elles sortiront. L'important, c'est d'apprendre dans la bonne humeur plein de choses qu'on aura oubliées dans 5 minutes.
Hein, oui, c'est vrai.
Démonstration tout de suite. Allez, jouons. J'ai promis une question un petit peu...
huilée.
Oui, exactement. C'est une question écrite spécialement pour vous, Stéphane, car elle combine histoire et Grèce. Je parle du pays. Le restaurant le plus ancien de Grèce est à Athènes. Et l'huile d'olive qu'il propose est produite grâce au plus vieil olivier du monde qui se trouve dans son jardin. L'arbre aurait 2000 ans minimum. Vrai ou faux?
Est-ce qu'un olivier peut vivre 2000 ans? Oui.
Oui.
Ça, c'est,
oui.
Je ne dis pas que c'est facile, mais il peut vivre.
Est-ce qu'il produit encore?
Il y a peut-être eu des rejets, vous voyez, des drageons.
Mais
de là,
faire une bouteille d'huile d'olive, c'est pas évident. Mais je pense qu'ils ont le plus vieil olivier dans leur jardin, mais ils achètent l'huile au supermarché.
Oui. Ça n'est pas une nuance qu'autorise cette question. C'est oui,
ah oui
ou non.
Oui, mais c'est ça. Parce que là, au bout d'un moment... Moi, je
c'est le bébé avec l'eau du bain, là.
Vous m'apportez la réponse que je ne vous ai pas demandé.
Est-ce qu'ils servent l'huile d'olive ou est-ce qu'ils...
Non, la question, elle est simple. Dans le restaurant le plus ancien de Grèce, il y a l'olivier, le plus vieil olivier du monde, qui fournit de l'huile d'olive.
Non, alors non. Est-ce qu'ils vont acheter au supermarché? Ils vont au supermarché, je vous le dis.
Donc vous dites vrai ou faux?
Et là, dites donc, il a dit faux. Alors, on y va, là.
Vous avez gagné!
Je suis désolé, ouais. elle est garée en double fil, Clémentine.
Pas du tout, pas...
Elle peut se dépêcher.
Non, mais je vois que vous ergotez, là,
mais
vous
non,
essayez
pas du
de
tout,
le faire
mais,
perdre.
Mais parce qu'il y a toujours plusieurs strates dans les questions. Le plus vieux restaurant de Grèce est à Athènes. Quant au plus vieil olivier du monde, il est en Crète.
Ah, voilà. Bravo. Voilà.
L'université de cette île estime son âge à plus de 4000 ans. Et sachez que l'arbre est toujours productif.
Oh. Bah voilà, oui.
Et
voilà.
Ça vous fait une huile d'olive
de grande qualité.
Bah, très bien. C'est magnifique, magnifique.
Voilà. Bah, on a appris des choses. Ouais. Donc le plus vieil olivier est en Crète.
Alors, dans une émission précédente, Clémentine, vous avez eu une demande. Vous voulez des questions. Minimum, c'est à 1960, vous avez dit.
Ouais, moins de 1960, avant.
Vous êtes contente.
Et pas le Titanic.
Ça va être 56, pas les rideaux et pas les tyrannosaures.
Je ne suis pas comme ça, non. Ce sera 1945.
Ah oui.
1945, les pilotes japonais utilisent la tactique des attaques kamikazes, notamment au large de Taïwan sur les porte-avions USS Nevada et USS Ticonderoga. Le lieutenant Robert R. Klingman est le seul aviateur américain à s'être suicidé pour les combattre. Il a été une sorte de kamikaze anti-kamikaze. Vrai ou faux?
L'Américain aurait été aussi pilote d'avion.
Tout à fait.
Et il aurait essayé de fracasser un avion japonais avant que celui-ci ne se jetât sur le...
Oui, il a réussi même. Hein.
Il a réussi.
Robert Klingman, c'est le seul aviateur américain à s'être suicidé pour les combattre. Une sorte de kamikaze anti-kamikaze.
Non.
J'aime bien parce qu'on fait non. Elle va pas argumenter, mais n'insiste pas. Vous dites non.
C'est ce qu'il me semble, je viens de le faire, oui.
Oui, c'est pour ça, c'est pour
la
ça.
La dame vous dit non.
Ouais, c'est ça.
Vous avez gagné.
Bravo.
Ça me fait tellement plaisir. On gagne beaucoup de quiétude quand vous avez une bonne réponse. C'est faux. Mais par contre, je vous explique, Robert R. Klingman a vraiment existé. Il a écrit une des plus belles pages de l'aviation. En mai 1945, il tente d'intercepter un avion de reconnaissance japonais. Mais à 38 000 pieds, sa mitrailleuse s'enraye. Il décide de détruire la queue arrière de l'avion ennemi en la touchant à 3 reprises avec sa propre hélice. Et il va y arriver, puis il va se poser. Il mourra bien plus tard, en 2009, à 89 ans.
Magnifique, ah oui, magnifique.
Une question pour vous, Stéphane. 1862, c'est la publication des Misérables par Hugo. Le personnage des Thénardier est directement inspiré d'un adversaire politique de l'illustre écrivain. Victor Hugo voulait limiter la durée du travail des enfants dans les usines de 16 heures à 10 heures. Son adversaire a fait échouer la réforme.
Je l'ai raconté dans cette émission, Stéphane.
Attention, chaque mot compte.
Il est l'inventeur du bleu thénard. Il a été le premier à tenir la chaire de chimie au Collège de France. Le bord, il a inventé le bord.
Il n'était pas son opposant politique.
C'était pas son opposant politique, mais ils n'avaient pas le même point de vue sur la question du travail des enfants, en effet.
Donc là où il y a une ambiguïté, c'est quand il dit son opposant politique.
Non, il était opposé sur cette question précise.
Non, mais la question, c'est surtout de savoir si. Inspiré de.
Oui, c'est bien sûr. Il a pris un personnage avec lequel il était en bisbille. Pour faire le personnage des Thénardier.
C'est Thénard qui était chimiste.
Vous avez encore gagné.
Son plus fervent opposant était Louis-Jacques Thénard. Donc, il s'en servira pour les Thénardier. Alors, Clémentine, une question donnée pour vous aussi. 14 mai 1610. Henri IV.
Ah.
Vous connaissez ?
Oui. C'est le jour de la mort, rue de la Ferronnerie.
Exactement. Il est poignardé trois fois par Ravaillac, rue de la Ferronnerie. Mm-hmm. Mais avant de s'appeler ainsi, la rue s'appelait la rue des Charrons, la rue des Marrons ou la rue des Darons ?
Ah, c'est une bonne question, ça.
La rue des Darons, je pense pas que...
Ah, on utilisait cette expression à l'époque.
Déjà, en Verlan, on disait, Henri IV, c'est mon daron. Ouais. Mais non, ça m'étonnerait, ça. Bon, alors, rendez-vous, rue des Charrons, rue des Marrons. Des marrons, il n'y avait pas de marronniers. Les premiers marronniers en France, c'est Boileau, donc c'est le XVIIe siècle. Donc c'est aussi le XVIIe siècle, mais c'est la fin du XVIIe siècle.
C'est de la couleur. Hein.
Donc il n'y avait pas de marrons, donc ça ne pouvait pas s'appeler la rue des Marrons. Donc c'était la rue des Charrons.
Ok, bon, on enchaîne, allez.
Vous avez encore gagné.
Bravo Clémentine.
Oui, la rue des Charrons, on l'appelait aussi rue de la Charronnerie.
Oui.
Un charron réparait les chars. Puis ce sont les ferronniers qui se sont installés dans la rue, ceux qui travaillaient le fer forgé. La rue s'est appelée à un moment de la charronnerie et de la ferronnerie en même temps, puis que de la ferronnerie.
Il y a toujours sur le sol
l'indication du lieu où ça s'est passé
avec les armes de France et de Navarre.
Une question pour vous départager à présent. L'histoire, c'est le passé, avec parfois la furieuse sensation de la vivre au présent.
C'est
de moi. De moi.
Quand il est allé au parc Astérix.
Vous écrivez des citations.
Volodymyr Zelensky est devenu le plus jeune président de l'histoire de l'Ukraine et l'actualité au quotidien nous force à penser qu'il écrit l'histoire en direct. C'était pour ça, la petite introduction. Président atypique, quel fait d'armes étonnant et vrai le concernant ? Il a doublé l'ours Paddington au cinéma. Il a été l'égérie d'une marque de pizza pendant 2 ans. Il a présenté une sorte de journal du hard, mais en mode érotique. Il a chanté déguisé en clé à molette dans le Masked Singer ukrainien.
Alors, moi, je dirais qu'il a fait la marque de pizza.
Marque de pizza.
Ouais, j'allais dire la même chose. Alors, attendez, redis-moi.
Il a doublé l'ours Paddington au cinéma, égérie d'une marque de pizza. Il a présenté une sorte de journal du hard où il a chanté déguisé en clé à molette dans le Masked Singer ukrainien.
Clé à molette, c'est pas mal.
Il a doublé l'ours Paddington.
Eh bien, je suis en joie de vous dire qu'une fois de plus, Stéphane a gagné. Il est la voix officielle en Ukraine de l'ours Paddington pour deux films.
Ça me paraissait pas tellement transgressif, j'allais dire. Il est comédien, il est acteur, donc il a fait du doublage.
Ouais. Deux films en 2014 et 2017. Mmh. 2 ans plus tard, il devenait président. Et récemment, d'autres acteurs qui ont également prêté leur voix à l'ours ont souligné le courage de Zelensky, notamment en France. Et je pense évidemment, en France, vous savez qui a doublé Paddington dans les films ? C'est Guillaume Gallienne.
Ah oui, bien. Ah bah dites donc alors.
Voilà, désolé Clémentine.
Futur chef d'état-major de l'armée française.
On se retrouve à lundi.
Oui, c'est ça.
Et historiquement, votre continue avec nos personnages du jour qui s'exilent au Brésil.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Il a servi le premier empire en France avant de partir au bout du monde pour en servir un deuxième. Il a vu le Brésil prendre son indépendance et on n'a pas les moindres détails sur ses toiles avant d'en choisir les couleurs de son drapeau. Je vous raconte maintenant le peintre français exilé au Brésil, Jean-Baptiste Debré. Nous sommes le 28 mars 1816 dans la baie de Rio de Janeiro. Le Calpe est un petit voilier américain venu tout droit du Havre à Costa après 2 mois de traversée. Si les cales sont pleines, ce sont surtout les passagers qui attirent l'œil. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit débarquer 40 Français d'un coup dans la plus grande ville du Brésil, d'autant que ces Français ne sont pas des marins ou des négociants, mais des artistes. Parmi eux, un homme se distingue. Il s'appelle Jean-Baptiste de Bret. C'est un peintre qui a tout perdu. Son empereur, d'abord, puisque la chute de Napoléon Ier a privé l'artiste de son principal client. Mais surtout, son fils, emporté la même année que le Premier Empire. En quittant la France à 48 ans, Jean-Baptiste de Bret ne laisse que des larmes et des regrets. Tout avait pourtant si bien commencé. Né dans une famille aisée, Jean-Baptiste aurait pu être greffier comme son père ou architecte comme son frère. Mais vers l'âge de 15 ans, il décide plutôt de devenir artiste comme son cousin, Jacques-Louis David, l'homme à qui l'on devra plus tard le fameux tableau du Sacre de Napoléon, celui où l'empereur s'apprête à poser la couronne impériale sur la tête de Joséphine de Beauharnais. Mais nous n'en sommes pas là. En 1789, quand la Révolution éclate, Jean-Baptiste de Bret a 21 ans et ne laisse aucune trace d'un engagement quelconque au cours d'une période qu'il préfère consacrer à l'apprentissage de son art. Pour rien, ou presque. Car en 1791, lorsqu'il remporte le second prix de Rome, la France n'a pas la tête à la peinture et la fièvre révolutionnaire emporte vite les ambitions du jeune homme qui se rabat sur le destin industriel aux ponts et chaussées d'abord, à l'école centrale des travaux publics, la future polytechnique ensuite. Sa carrière d'artiste ne décolle vraiment qu'avec l'Empire. L'époque est aux sujets historiques ou mythologiques. Dans la foulée de la campagne d'Égypte et des premières découvertes archéologiques, le néoclassicisme fait rage et Jean-Baptiste de Bret s'en donne à cœur joie avec des œuvres comme Aristomène délivré par une jeune fille ou Érasistrate découvrant la cause de la maladie du jeune Antiochus. Repéré, le peintre rejoint le cercle fermé des artistes d'État, recruté pour exalter la période qui s'ouvre. Fervent admirateur de l'aigle, Jean-Baptiste de Bret ne se fait pas prier pour servir l'imagerie impériale avec des œuvres de commande. En 1815, la bataille perdue de Waterloo est un rude coup pour les artistes proches du pouvoir, bien conscients que la Restauration ne leur fera pas de cadeau. Mais en lui proposant une mission de plusieurs années dans sa colonie du Brésil, le Portugal lui offre une seconde chance que Jean-Baptiste de Bret décide de saisir, sans trop savoir sans doute où il s'aventure. Mais après tout, il n'a rien à perdre. Sur le papier, la promesse est belle. Il s'agit de fonder à Rio de Janeiro une académie des beaux-arts inspirée de celle que la France a déjà érigée. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Au Brésil, les élites portugaises ne voient pas toujours d'un bon œil l'arrivée de ces Français, artistes certes, mais partisans d'un premier empire qui n'avait pas hésité à envahir le Portugal. Alors, les tensions sont vives, les commandes sont rares et les tracasseries nombreuses. En 1820, l'Académie des Beaux-Arts n'a toujours pas ouvert ses portes et le plus gros du contingent français repart pour la France de Louis XVIII. Jean-Baptiste de Bret, lui, décide de rester. Rio lui plaît et il fait partie de ceux qui ont réussi à retrouver une activité de peintre officiel du royaume brésilien, vassal du Portugal. L'année suivante, la grande histoire le rattrape à nouveau. Régent du royaume, le propre fils du roi du Portugal décide que l'autonomie du royaume brésilien ne suffit plus. En octobre 1822, l'indépendance est déclarée et Pierre d'Alcantara devient l'empereur du Brésil, Pierre Ier. Pour de Bret, c'est une chance. Quand on a servi un empereur, on peut bien en servir un autre. Le peintre se met tout naturellement au service du pouvoir et comme son CV impressionne, c'est à celui qui est alors peintre particulier de la maison impériale que le tout nouvel empereur confie le soin de dessiner le drapeau de la jeune nation brésilienne. Si la fameuse devise « Ordem et progresso » ne figure pas encore, pas plus que le globe bleu avec ses 27 étoiles, c'est bien Jean-Baptiste de Bret qui a imaginé les couleurs et le dessin du pays Auriverde avec le célèbre losange jaune sur un rectangle vert. Rapidement titulaire de la chaire de peinture de l'Académie des Beaux-Arts qui finit enfin par ouvrir ses portes, de Bret voit sa situation s'améliorer. Mais de nouveaux troubles menacent le jeune empire brésilien. L'artiste décide de ne pas attendre un nouveau Waterloo. En 1831, de Bret revient en France. Il ne retournera jamais au Brésil, mais il n'en a pas fini pour autant avec le pays où il s'était un temps exilé. À 63 ans, Jean-Baptiste de Bret se lance dans ce qui est peut-être sa plus grande œuvre, la rédaction de son voyage pittoresque et historique au Brésil, un ouvrage construit autour de 153 planches sélectionnées parmi les quelques 600 aquarelles et croquis qu'il a rapportés du Brésil. Sans doute, Debray pense-t-il en tirer une sorte de rente pour ses vieux jours. Mais la mode des livres de voyage est passée et l'ouvrage se vend mal. Qu'importe. Son intérêt dépasse les chiffres de ses ventes et son œuvre est une espèce à part, portée par un regard de témoin et presque d'ethnologue, soucieux de dépasser la seule image en y ajoutant une série de textes. Dans la main de cet homme à cheval entre deux siècles, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, et entre deux mondes, le vieux et le nouveau monde, la plume est là pour décrire ce que le pinceau ne suffit pas à montrer. Loin de se limiter au sujet de cour, l'homme qui a servi deux empereurs s'intéresse au Brésil de tous les jours, celui des rues de Rio de Janeiro. Il montre toute la société brésilienne sans se contenter de peindre des colons portugais. Loin de l'or des palais de Rio, il peint un autre Brésil au travers de ses portraits d'esclaves noirs et indiens pour mieux dénoncer leurs conditions d'existence. Il montre le Brésil des petites huttes, celui des quartiers pauvres, des chants et des ateliers, le Brésil des chants et des danses, celui des sorciers, des rites, des mariages et des enterrements. Il donne à voir toute la complexité d'un pays immense, d'une nation en construction, mélangée, diverse, injuste et belle, joyeuse et tragique, cruelle et souriante, tout à la fois. Si à son retour en France, Debray n'en a donc pas fini avec le Brésil n'en avait pas non plus fini avec lui. Un peintre qu'elle redécouvre bien des années plus tard, en 1944, lorsque l'œuvre de Jean-Baptiste Debray, mort oublié en 1848, est enfin traduite en portugais. La nation Rivière découvre alors étonnée le témoignage d'un homme qui était là au temps de sa naissance, et le peuple brésilien, quant à lui, redécouvre l'histoire de son drapeau, de ses couleurs et de cette lumière qu'on ne trouve que là-bas, au pays du vert, du jaune et du bleu, ce bleu pur d'un ciel que le peintre français avait tant aimé.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jean-Baptiste Debray, nous avons le plaisir d'accueillir un professeur émérite en littérature et civilisation latino-américaine qui le connaît bien. Bonjour Jean-Paul Duviol.
Bonjour Stéphane Bern.
Jean-Paul Duviol, en 1816, le peintre Jean-Baptiste Debray accoste à Rio de Janeiro après un long voyage depuis Le Havre. Aujourd'hui, quand on pense à cette ville, on imagine forcément les plages d'Ipanema, de Copacabana, les favelas, sa vaste forêt, la statue du Christ Rédempteur au sommet. Mais à quoi ressemblait Rio il y a deux siècles? Comment Debray la décrit-elle?
Rio, évidemment, à cette époque-là, était la nature, uniquement la nature, sauf quelques maisons que l'on voyait au fond de la rade. Cette fameuse rade de Guanabara, une des plus belles, peut-être la plus belle du monde, et qui est dessinée par Jean-Baptiste Debray dès qu'il arrive, suscite son admiration, il donne des détails, etc. Et il fait donc plusieurs aquarelles, car il travaille au dessin et à l'aquarelle. Donc il va peindre une nature brésilienne qui le fascine, mais nous verrons qu'il sera davantage intéressé finalement par les habitants que par la nature.
Jean-Luc,
pour revenir sur le drapeau du Brésil qu'on doit à Jean-Baptiste Debray, pourquoi il a choisi de l'orner de jaune et de vert? Qu'est-ce que ces couleurs symbolisent?
Alors, c'est en fait le vert des Bragances et le jaune des Habsbourg.
D'accord.
Car il y avait le mariage avec Marie-Louise de Habsbourg, sœur de Marie-Antoinette. Et donc, cette couleur était utilisée. Et au centre, il y avait les armes de Pedro Ier, empereur du Brésil. La forme a été réutilisée, bien sûr. Et on a rajouté, au moment de la République, en 1889,
Le globe,
et avec surtout le texte Ordem et Progresso, qui est du positivisme. Enfin, c'est tiré d'Auguste Comte, voilà, oui, c'est ça.
À son retour en France, après 15 années passées au Brésil, Debray a publié Voyage pittoresque et historique au Brésil, un ouvrage dans lequel, je le disais, on trouve plus de 150 planches accompagnées de textes pour décrire le pays et ses populations. Ce genre, c'est une forme de reportage, finalement. C'est pas un livre de littérature. C'est comme un...
Effectivement, c'est un récit de voyage qui est l'héritier, disons, d'un grand voyageur qui était Alexandre de Humboldt, qui n'a malheureusement pas pu aller au Brésil, mais enfin qui, au début, à la charnière du XVIIIe, du XIXe siècle, a fait un voyage mémorable et a incité, provoqué, si vous voulez, ces fameux voyages pittoresques dans le sens premier, c'est-à-dire dignes d'être peints, pittoresco. Et n'oublions pas que la photographie n'existait pas.
Mais oui, bien sûr. Mais alors, comment est-ce qu'on peut décrire, comment on peut décrire, pour nos auditeurs qui n'ont jamais vu ces peintures, qu'est-ce qu'on peut dire du style des peintures de Jean-Baptiste Debray?
Alors, disons qu'on se trouve justement à la jonction d'une période où la qualité, disons, de reproduction, de qualité de picturale issue du néoclassicisme est parfaite, d'une certaine manière, et en même temps, peut-être, c'est un peu audacieux, mais c'est quand même vrai, à la naissance d'un romantisme. Donc il y a aussi ce qu'on a appelé les peintures de genre. Il fait d'abord un tome sur les Indiens du Brésil, le second sur la vie quotidienne à Rio, et le troisième sur le monde officiel, enfin pour simplifier, disons, voilà. Et dans celui sur les Indiens, il n'est pas tout à fait, enfin on le considère comme n'étant pas vraiment ethnologique dans le sens, disons, moderne du terme, mais tout de même, il va s'intéresser au progrès, c'est la notion toujours de progrès, les Indiens sauvages, bien sûr, il y a les sauvages et les civilisés. C'est une forme d'encyclopédie. D'ailleurs, il donne un texte en face de ces images. Et ce texte est souvent négligé, il est très bon.
Justement, Stéphane a raconté que Debray avait documenté l'indépendance du Brésil, déclarée en 1822. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite piqûre de rappel qui fera mal à personne, je pense? Depuis combien de temps le pays était un territoire portugais?
Eh bien, en fait, il est portugais depuis 1494, c'est-à-dire le traité de Tordesillas. Bon, je vous rappelle alors rapidement.
Les Espagnols et les rapidement. Portugais faisant partager le monde.
Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait que deux nations colonisatrices dominantes, étaient l'Espagne et le Portugal à la fin du XVe siècle. Mais ensuite, il y a eu Christophe Colomb, bien sûr. Et après le voyage de Christophe Colomb, bien, le roi Ferdinand a demandé au pape, Alexandre VI, qui était évidemment la valeur suprême, et Alexandre VI, par chance, si on peut dire, était espagnol. Et donc, il va sans doute, dit-on, favoriser l'Espagne, enfin la Castille, par rapport au Portugal. Et seront donc les terres à découvrir, au-delà d'une ligne de 200 lieues, je crois, ou 100 lieues après les Açores, à l'ouest, seront espagnoles, seront castillanes. Et en deçà, ce sera portugais. Or, il se trouve que la ligne passe entre l'embouchure de l'Orénoque et le Rio de la Plata, donc, dessine le triangle du Brésil, en fait. Donc, il y a très longtemps que le Brésil est portugais.
Jean-Baptiste Debray, pour revenir à lui, est plus connu au Brésil qu'en France aujourd'hui, j'ai l'impression. Ses aquarelles se trouvent dans les livres d'histoire du pays?
Sans doute, je vous dirais que je ne connais pas les livres, les manuels scolaires du Brésil, mais c'est fort probable. Car, si vous voulez, c'est quand même la source iconographique fondamentale. Hein. Avant la photographie, car la photographie, bien sûr, va limiter énormément ce genre de voyage pittoresque. Voyez, c'est-à-dire qu'on dira, la vérité, elle est davantage dans le cliché photographique que dans ce qui peut être de l'imagination. De l'imaginaire. Mais Debray avait un souci, vraiment, de véracité, d'authenticité.
Merci beaucoup, Jean-Paul Duviel, de nous avoir emmenés au Brésil avec le peintre Jean-Baptiste Debray, à qui le pays doit notamment les couleurs de son drapeau. Votre dernier livre, « Idées reçues sur les grandes découvertes », est disponible aux éditions Michel Chandaigne.
Merci.
Voilà, merci à vous.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Gavin Stementerou, ils ont réuni des personnages qui s'exilent au Brésil. Après Georges Bernanos et Jean-Baptiste Debray, vous nous racontez, Jean-Luc, Vincent Cassel.
Je vais en effet vous parler aujourd'hui de l'acteur Vincent Cassel, qui lui aussi s'est exilé au Brésil plusieurs années et continue de s'y rendre dès qu'il le peut. Et étant donné la thématique festive du jour, j'ai enfilé pour l'occasion mon plus beau tanga. Le vert et jaune à paillettes bleutées. Vous voulez le voir? Alors non, c'est dommage parce qu'il met vraiment bien ma cambrure en valeur. C'est pas grave, je mettrai des photos sur mon OnlyFans. Voilà. Enfin, dans mon cas, c'est plutôt un compte l'OnlyFans. Parce que j'ai qu'une seule personne qui s'est abonnée pour voir mon contenu érotique. Et d'ailleurs, je tiens à remercier David pour son soutien. Mais revenons au sujet. Avec tout de suite une première interrogation. Pourquoi s'exiler au Brésil et pas ailleurs? C'est vrai, quoi. Il y a plein d'autres beaux pays dans le monde, comme par exemple l'Afghanistan, le Yémen ou la Russie. Alors pourquoi ? Pour se faire implanter des fesses en silicone et devenir influenceuse bikini ? Pour rencontrer le grand chef indien Raoni en Amazonie ? Raoni, qui, rappelons-le, est également champion du monde de ping-pong sans raquette, grâce à son plateau labial. Un jour, il a gobé la balle. Bon, plus sérieusement, pourquoi s'exiler au Brésil ? Eh bien, parce que Vincent Cassel s'est pris de passion très tôt pour ce pays. La légende raconte qu'à sa naissance déjà, il avait enroulé son cordon ombilical autour de son poignet pour faire un bracelet brésilien. Mais en vrai, il est tombé amoureux du Brésil à l'adolescence, notamment grâce à la musique brésilienne. Il faut dire que la musique brésilienne, notamment avec la bossa nova, enchante tout le monde, avec des artistes comme Chico Buarque, João Gilberto.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
João. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux que je demande à David pour les accents, parce que je ne sais pas pourquoi j'y vais.
Gilberto Gil aussi.
Gilberto Gil, ou encore Antonio Carlos Jobim.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco.
Adapté en France par Georges Moustaki, oui, Les Eaux de Mars. En plus, nous Français, on a su sublimer certains classiques de la musique brésilienne en les adaptant dans notre propre langue, riche de ses propres nuances et subtilités, comme ici Carlos. Mais Vincent Cassel, lui, ne va pas vraiment au Brésil pour faire la bamboula. Non, il apprécie surtout la poésie, la douceur de cet immense pays, ainsi que la joie de vivre de ses habitants. Alors c'est vrai que le Brésil peut être dangereux par endroits, mais Vincent Cassel ne passe pas tout son temps dans les favelas. Sinon, c'est qu'il a une bonne raison. Et au pire, s'il fait une mauvaise rencontre, il se la donne un peu en capoeira. Un art martial qui, je vous le rappelle, se situe à la frontière du combat et de la danse. Alors je sais, la capoeira ne permet pas vraiment de se battre. Hein. Si t'es face à Conor McGregor dans un octogone,
oui, non.
T'es mort. Voilà, t'es mort. Mais si tu fais quelques mouvements de capoeira face à un agresseur de base, il est généralement pris d'un fou rire. Et là, tu peux t'enfuir en courant. Non, plus sérieusement, au Brésil, Vincent Cassel est tranquille. Il peut déambuler sur les plages de sable blanc et faire du surf sans être dérangé, notamment par les paparazzi. Être celui qu'on imagine en le voyant, être juste un mec cool dont on voudrait tous avoir la vie. Oui, parce que autant au Brésil, il peut se promener sans créer une émeute, autant en France, c'est une star. Vincent Cassel, né le 23 novembre 1966 à Paris. C'est le fils aîné du comédien Jean-Pierre Cassel et de Sabine Cassel-Lanfranchi. Enfin, Cassel, c'est un pseudonyme, hein, car en vrai, il s'appelle Crochon, comme son papa.
Ah oui.
Alors, c'est sûr que Vincent Crochon, ça pète tout de suite moins. Mais ça explique peut-être pourquoi il est si bon comédien, avec une palette de jeux aussi vaste. Car oui, tout est bon dans le Crochon. C'est tout pour moi. Petit break de deux secondes d'ailleurs. Vous vous rendez compte que quand il était marié à Monica Bellucci, elle s'appelait en fait Monique Crochon. Monica Bellucci, Monique Crochon.
Monique Crochon, hein, ça marche pas bien.
Star international, concierge. Il y a des choix. Ouais. Ça casse un peu le glam. Enfant, Vincent Cassel Crochon passe ses étés à Arcachon. Et comme son papy dirige le cinéma de la plage, il voit très jeune des tas de films. Pas super attiré par les études, il rentre à 16 ans à l'école du cirque, travaille pour la compagnie Renaud Barreau, puis rejoint sa mère à New York. Là, à 18 ans, il enchaîne cours de danse, cours de théâtre à l'Actor Institute et petit boulot. Et ça le met de bonne humeur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, petit conseil non radiophonique, pour compléter la rubrique, si vous voulez voir un jeune Vincent Cassel sautillant et danseur, bien loin du personnage ténébreux qu'on connaît, je vous conseille d'aller regarder le clip de Tristan. Bonne humeur ce matin.
Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça.
Vous allez voir un Vincent Cassel très motivé. Hein ? Il avait la petite vingtaine et un beau t-shirt de Batman. Il commence à jouer dans quelques films, mais c'est sa rencontre avec Mathieu Kassovitz qui sera déterminante pour sa carrière. En 1995, il joue en effet le rôle de Vince dans son film La Haine, avec notamment cette scène culte où Vince croit parler à quelqu'un alors qu'en fait, c'est son reflet dans un miroir. Il couillon quand même.
C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? Hein ? Ça, c'est à moi que tu parles, hein ? C'est à moi que tu parles comme ça, mec ?
Gros succès commercial et double nomination au César. Du coup, Kassovitz le dirige à nouveau en 2000 dans Les Rivières Pourpres. Nouveau succès au box-office. Vincent Cassel joue alors rapidement dans des films à l'international comme Ocean's 12, Ocean's 13, où il réussira même à caser une scène mythique de cambriolage version capoeira. Oui, le Brésil n'est jamais loin. À l'aise dans tous les registres, il est ce qu'on appelle un acteur caméléon. Non, pas parce qu'il arrive à attraper une mouche en plein vol avec sa langue, mais parce qu'il peut tout interpréter, des personnages violents et impulsifs, tout comme des personnages timides et introvertis. Et il s'investit à fond dans chaque rôle. comme lorsqu'il prend 20 kilos et une moustache pour jouer le gangster Mérine, rôle pour lequel il obtient enfin le César du meilleur acteur en 2009. Il continue ensuite sa carrière internationale, oubliant dès qu'il le peut la grisaille parisienne en suivant les préceptes d'un grand penseur français qu'on devrait tous écouter, Claude François. Aujourd'hui, Vincent Cassel a refait sa vie avec Tina Kunakei, un mannequin de 31 ans, sa cadette. Ils se sont mariés en 2018 et ils ont eu une petite fille en 2019. Et pour montrer l'amour qu'ils portent tous deux au Brésil, à votre avis, comment l'ont-ils prénommé ? 1. Caipirinha. 2. Carnaval. Ou 3. Mercosur.
Carnaval, ils ont dû l'appeler.
Non, aucun des droits. Aucun des trois.
Ah bah oui, si...
Ils l'ont appelé Amazonie.
Ah oui.
Ah oui, quand même. Ah, ouais. Ouais. Moi, ma fille, j'ai failli l'appeler Forêt de Meudon. Ce qui en jette moins. Hein. Amazonie, ça en impose. Mais si plus tard, à l'Institut de Beauté, il y aura toujours un ou deux lourdingues pour dire « Alors, Amazonie, on vient se déforester les jambes ?»
Oh non.
Si, il y en aura
on
toujours.
On a l'image.
Mais c'est pas grave. Car si ça la saoule trop, elle pourrait, elle aussi, comme son père, s'exiler au Brésil.
Tout de suite, c'est joyeux quand il y a de la musique brésilienne. Merci beaucoup, Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui s'exilent au Brésil pour retrouver deux garçons qui restent ici à Paris. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un piano sur lequel tout le monde peut jouer. Bon, à condition de savoir jouer.
Oui, les pianos publics.
Les pianos publics. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on part à la découverte avec vous, Gavin Clemente-Ruiz. On reste encore un peu au Brésil puisque vous nous racontez l'un de ces symboles qui surplombe la ville de Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur. Au sommet du Corcovado, ou Cristo Rei.
Oui, et il ne faut pas confondre les deux. Le Christ, c'est la statue dont la construction a été entreprise pour célébrer le centenaire de l'indépendance du Brésil, qui a eu lieu, on le disait tout à l'heure, en 1822. Et le Corcovado, c'est la montagne en pleine ville, oui, le mont, le Morro même en brésilien, sur lequel il est posé. Le mot Corcovado, là c'est David qui me contredira peut-être ou pas, signifie boss ou bosseux en portugais.
Ah oui, en portugais du Brésil sans doute, parce que c'est pas très courant en Portugal, dans le vrai portugais. Hein,
voilà. Alors, ça fait référence en tout cas à la forme de la montagne, qui a clairement une bosse en son sommet.
Oui, oui, oui.
Là vous êtes d'accord.
Ah oui, c'est sûr.
Alors cette montagne, elle est donc située dans la ville de Rio de Janeiro, et elle est célèbre aujourd'hui dans le monde entier pour cette statue de Cristo Redentor, le Christ Rédempteur, qui se dresse au sommet, perché à 710 mètres d'altitude. Alors le Christ lui-même, il mesure 30 mètres de haut, il repose sur un piédestal de 8 mètres, il pèse 700 tonnes, ça c'était pour les chiffres, et il surplombe la ville, il offre un point de vue à 360 degrés lorsque l'on se retrouve à ses pieds. La construction de la statue a commencé en 1922, elle a été achevée en 1931, et ce qui impressionne, ce sont ses deux bras tendus généreusement. D'ailleurs, il y a une boutade au Brésil qui dit que si le Christ a les bras ouverts, c'est qu'il attend que les cariocas, le petit nom des habitants de Rio, se mettent à travailler pour applaudir. Les mauvaises langues, bien sûr, disent que ce sont les habitants de Sao Paulo qui la colportent. Plus sérieusement, les bras ouverts symbolisent parfaitement la rédemption et l'accueil et la croix du Christ.
Mais qui a construit ce Christ ?
Alors, c'est l'ingénieur brésilien Hector Silva Costa qui s'est chargé de la construction. Un premier projet a été dessiné par le brésilien Carlos Oswald. Il est réalisé, mais vite abandonné. Trop difficile à construire. Hector Silva Costa préfère le travail du sculpteur français Paul Landowski. Ouais, un Français. Il conçoit une première statue en plâtre dans son studio à Boulogne-Billancourt de 4 mètres de haut et il sculpte la tête de 3,75 m et les mains 3,20 m quand même. La structure interne en béton armé est confiée à un Français, encore une fois, un ingénieur renommé à l'époque, Albert Caco. Le tout est transporté jusqu'à Rio en bateau. On se sert des moules en plâtre de Landowski pour les réaliser en béton sur place. Et la dernière idée d'Hector Silva Costa, c'est de recouvrir de stéatite. Alors c'est quoi la stéatite ? C'est une pierre venue de la région de Louro Preto, taillée en petits morceaux, et ce qui donne l'impression, une fois posée, que ça forme comme de la mosaïque, un peu plus chaleureuse que le simple béton. Et, pour l'anecdote, Landowski n'a jamais mis les pieds au Brésil pour voir son œuvre in situ.
Mais c'est bien pour lui. Pourquoi le Brésil a choisi un Français pour sculpter cet immense projet ?
Eh bien, parce que Hector Silva Costa connaissait le travail de Paul Landowski, très en vogue alors, hein, qui a reçu le Grand Prix de Rome de sculpture en 1900. Un travail qui s'intégrait dans le cadre d'une recherche très personnelle de l'artiste français appelé le Temple de l'Homme et qu'il ne verra jamais aboutir. Alors, cette statue du Christ Rédempteur, c'est une maigre consolation, si j'ose dire. Il saute sur cette proposition inespérée. On trouve d'ailleurs encore une réplique de la statue au musée Landowski à Boulogne-Billancourt, si vous vous souhaitez aller voir. Alors il faut savoir que pour son inauguration, le 12 octobre 1931, presque 10 ans hein, après le début du projet, les officiels ont décidé de faire illuminer le Christ à distance par le célèbre inventeur de la TSF, Marconi. C'est donc depuis sa résidence en Italie et par un système de relais en Angleterre que le physicien a tenté d'éclairer Jésus. Cette phrase est un peu bizarre. Eh bien, je vous rassure, il n'y a pas eu de miracle, la technique n'était pas au point et l'on a dû trouver une solution un peu plus locale pour l'éclairer.
Mais dites-nous, comment la montagne et la statue sont-elles liées à l'histoire et à la culture du Brésil ?
Alors, la statue est devenue un symbole de l'unité nationale et de la foi chrétienne aussi. Hein. Des messes y sont encore célébrées pour les grandes occasions, mais surtout, elle a été positionnée à l'est. Elle est la première à sortir de l'obscurité chaque matin. Et surtout, elle est visible de partout. Quand on connaît la ferveur religieuse au Brésil, qui est le pays qui compte le plus de catholiques au monde, tous ces détails ne sont pas anodins. On se souvient notamment que des images de la visite du pape Jean-Paul II en 1980, quand il s'y rendit.
Et le Christ rédempteur est surtout aujourd'hui l'une des attractions touristiques les plus populaires du Brésil.
Ouais, selon les organisateurs, je n'ai pas les chiffres de la police, ce sont plus de 750 000 visiteurs qui s'y pressent chaque année pour découvrir le Christ de plus près, ce qui s'accompagne, vous l'imaginez, de défis pour la préservation hein, de la montagne et de la statue, notamment il y a la pollution qui peut l'attaquer, l'érosion, le vandalisme aussi, dans une ville de Rio où l'indice de criminalité est au plus haut, même si la samba est toujours là pour réchauffer les cœurs. Et d'ailleurs, le Corcovado a évidemment inspiré des chansons et des chanteurs. Il y a le compositeur brésilien Antônio Carlos Jobim qui a écrit une célèbre chanson intitulée Corcovado qui a été interprétée par plusieurs artistes dont Ella Fitzgerald ou Frank Sinatra. Écoutez un peu. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams. C'est beau, c'est magnifique. Mes aïeux, quelle époque. Merci Gavin. Merci.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Et pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin Clemente-Ruiz, et maintenant avec vous, David Castel-Lopez.
En 2003, à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, il y avait un étudiant en psychologie qui s'appelait Doug Perman. Doug, il déménageait ce jour-là, mais il avait surestimé sa capacité à transporter son piano droit jusqu'à son nouvel appartement. Et là, son cousin à Doug, qui s'appelait Hugh Jones, lui a dit « Bah, t'as qu'à le laisser dans la rue, le temps de trouver une solution, et tant qu'à faire, pour justifier sa présence sur le trottoir, tu as qu'à laisser le tabouret et aussi mettre un petit mot pour inviter les gens à jouer, pourquoi pas ?» Et immédiatement, ce piano droit devant l'immeuble de Doug, c'est devenu une attraction dans la ville de Sheffield. Ce qui en dit peut-être plus sur l'absence d'attraction dans la ville de Sheffield que sur la qualité intrinsèque de cette attraction-là. En tout cas, il n'a plus jamais été question de trouver une solution pour monter le piano dans l'appartement de Doug. Alors le piano a un petit peu souffert, il a perdu une note. C'était un si bémol. Les marteaux ont gelé l'hiver. Mais trois ans plus tard, il était toujours là. Et à ce moment-là, il y a un artiste britannique qui s'appelle Luke Jerram qui a repris l'idée, mais à plus grande échelle, en installant 15 pianos publics à Birmingham. Puis, il a étendu le principe à plein d'autres villes du monde et il a appelé son installation « Play me, I'm yours ». « Jouez-moi, je suis à vous ». Le but de cette installation, c'était bien sûr le même que le but de n'importe quelle installation disposée dans la rue, à savoir créer du lien social dans l'espace urbain. Voilà, cette expression que j'ai vue apparaître quand j'étais enfant et fleurir partout. On crée du lien social dans l'espace urbain avec des pianos. Alors, ça aurait pu rester une installation confidentielle, hein, quelques pianos ici ou là, mais qu'est-ce qui est arrivé précisément à la fin des années 2000 ? Eh bien, les smartphones. Et donc, les gens ont commencé à se filmer en train de jouer et à poster leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et c'est en grande partie les smartphones qui ont fait le succès de ces pianos publics. Aujourd'hui, il y a des pianos publics partout. Il y a un site qu'on a compté 9000 dans le monde. Et ça a donné lieu à plein de happenings de type fun. Notamment quand de grands musiciens ont joué dessus en scred. À l'image du pianiste chinois Lang Lang cette année. Voilà. voilà, tout à coup, quand vous êtes dans une gare, vous entendez ça, vous faites « Ah ok, bah, je m'arrête, parce que d'habitude, je paye pour entendre ça. » Et là, c'est gratuit.
En 2019...
Il a joué ça où ?
Il a joué ça à Saint-Pancras, à Londres.
La gare ouais, ouais. Où arrive l'Eurostar.
Tout à fait. En 2019, il y a une artiste lyrique qui a fait une jam session avec un pianiste de 91 ans. C'est devenu viral sur Instagram, ça donnait ça. Bon, le son est moins bien, ça tape moins que Lang Lang, mais quand même, c'était un... Moi, j'ai vu la vidéo, ça m'a donné les larmes aux yeux. Alors, il y a des gens qui abusent un petit peu. Il y a des gens qui jouent pendant des heures,
oui,
tous
ça.
Les jours.
Bah oui. Ça empêche les autres.
Voilà, qui se finissent par se faire virer. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a un petit problème consubstantiel avec ces pianos. C'est que ça fait quand même genre n'importe qui peut jouer. Alors que non, la plupart des gens, ils ne savent pas jouer. Et il y en a même qui ne savent pas jouer parmi ceux qui pensent qu'ils savent jouer. Et donc, ça fait beaucoup. Et ça, ça donne lieu des fois à des cassages d'oreilles. Des gens que j'ai entendus dans des gares jouer à tue-tête comme des nazes. Et ils ont l'impression que c'est un droit. Alors moi, j'adore la démocratie. Hein, vous me connaissez. Vraiment, c'est super, tout ce qui est démocratie, tout ça. Mais j'aurais rien contre... quelques petites barrières à l'entrée en ce qui concerne les pianos de rue. Voilà, un petit examen peut-être.
Mais qui
préparer... ben, je ne sais pas, voilà, vous ça va, vous avez le droit de jouer, vous non.
C'est horrible.
Voilà. Non, mais... ça, j'avoue que ça va contre le principe de la création de lien social dans l'espace urbain. Oui. Mais bon, moi je veux bien sacrifier une partie de cette création.
Et puis il y a des belles histoires, parfois il y en a qui apprennent même à jouer du piano, mais comme ça dans des lieux publics.
Ah non, mais il y a
parce
des belles
qu'ils
histoires.
Ont pas les moyens.
Il y a des belles histoires.
Il y a
bien
eu
sûr,
un film
sûr.
Comme ça avec Christine Scott Thomas. Où elle découvre comme ça un pianiste et elle donne des leçons après.
Il y a même un radio crochet, il y a un crochet, une émission de télé en Angleterre qui découvre des talents grâce à ces pianos. Non mais je dis pas que c'est entièrement négatif.
Voilà, il y a des choses positives.
Ah, si on sent bien que vous aimez pas les gens, c'est tout.
Il n'aime pas qu'on lui casse les oreilles.
Exactement.
Voilà, c'est tout.
Non mais moi je pense au premier devant l'immeuble à Sheffield.
Oui,
ça va être quand même pénible si tu habitais au rez-de-chaussée.
Oui,
franchement.
Au bout d'un moment, en fait, il était mis sous scellé le soir. Pour en tout cas ne pas trop embêter les gens.
Les d'accord. Gens. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont reçu un cadeau empoisonné. L'archiduc d'Autriche, Maximilien de Habsbourg, qui s'est vu offrir le titre d'empereur du Mexique par Napoléon III, l'obligeant à quitter le pays pour rejoindre les terres mexicaines occupées depuis peu par la France. Une fonction qui va, hélas, le mener à sa perte. Puis elle, c'est un cadeau qu'elle a reçu un vrai. Evelyn Walsh MacLean s'est vu offrir le diamant Hope, un diamant bleu à la légende noire, vous allez voir. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un membre de la famille de Kim Jong-un qui a reçu un cadeau empoisonné. Mais vraiment, là, vraiment empoisonné pour le coup.
Ah bah oui, bah vous savez, en Corée du Nord, on est très à cheval sur les traditions. Donc quand le cadeau est empoisonné, il l'est vraiment. Hein. Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, peut en attester. Enfin, bah non, justement, il peut plus. Voilà, c'est ça. Bon, je vous raconte tout ça lundi.
Très bien. Alors, à lundi, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.